sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
La théorie d'Alfred Wegener sur la dérive des continents a fait débat auprès des géologues au début des années 1900. Il faut dire qu'Alfred Wegener était météorologue de formation. Les géologues pouvaient être irrités de prendre une leçon de la part d'un homme qui n'était pas de la partie. C'est cette histoire que nous raconte Jean Dercourt, secrétaire perpétuel, dans son discours donné sous la coupole le 23 novembre 2010, dans le cadre de la rentrée solennelle de l'Académie des sciences. Canal Académie a isolé l'intervention de Jean Dercourt. Nous l'écoutons.
Il y a peu de temps, l'Académie a consacré des travaux à reconstituer l'histoire des hypothèses de Darwin. Et on y a vu, outre l'immense progrès de société, les difficultés de transmission au public et l'état de refus de bien de ces propositions. Il y a peu, l'Académie examinait les causes des variations climatiques. Et là, je ne dirai rien, vous en savez autant que nous de ces tumultes affirmés. Enfin, aujourd'hui, j'ai choisi d'examiner l'histoire de la dérive des continents et qui, elle aussi, à son époque, a soulevé des débats et des luttes à l'intérieur du système éducatif. Enfin, je voudrais que l'on considère que l'adage classique de la science est un fleuve qui progresse lentement et qui est toujours tranquille. J'espère vous montrer qu'il n'en est rien. Et Wegener est l'homme qui eut l'idée de la dérive des continents. Et cet homme est possesseur de deux métiers, et c'est un des problèmes qu'il a eu toute sa vie. C'est un météorologiste, fondamentalement né à Berlin, fait ses études à Berlin et très rapidement s'adonne à la météorologie. Il le fait au Groenland, cette île grande comme quatre fois la France, englacée de montagnes élevées, faites essentiellement en glace, cède aussi, passe ses premiers travaux sur le terrain et a là des difficultés inhérentes au système de la marche. Par exemple, sa première mission en 1908, deux de ses compagnons meurent pendant la mission. Et ensuite, en 1912, il fait accompagner d'un patron danois, le Groenland est sous dépendance danoise, il fait une magnifique traversée de l'ensemble de l'île. Là, il prend confiance et les résultats qu'il obtient en météorologie sont majeurs pour cette science à cette époque-là. Et la guerre de 14-18 arrive. Il est mobilisé, envoyé sur le front de l'Ouest, blessé deux fois, hospitalisé à l'arrière. Il est affecté ensuite, jusqu'à 1918, à l'Observatoire météorologique des armées. Il retourne à la vie civile et là est nommé professeur titulaire d'une chaire de météorologie. Arrive l'année 1929, il est chargé d'une très grande mission météorologique qui doit faire une coupe est-ouest. Cette date est une date de grand progrès de l'aviation et le passage par le Groenland est à la fois une nécessité et un très grand danger. La mission très importante pour ce pays très mal connu porte sur 20 scientifiques et deux fois ce nombre d'assistants. Malheureusement, c'est un fiasco et Wegener, qui était chef de poste, en effet, décède rapidement. Il est mort dans un trajet latéral à la marche principale, son collègue aussi, et c'est le frère de Wegener qui conduit l'opération. Et Wegener disparaît ainsi, mort de son métier. Et ceci a donné lieu à beaucoup de travaux pour connaître quel avait été son rôle. Et il est simple, des connaissances d'un pays, d'une région très mal connue, la météorologie qu'il apporte est de très bonne facture. Il en fait la base d'un livre de manuel de météorologie, « La thermodynamique de l'atmosphère », édité en 1911, réédité deux fois. C'est un classique dans ce pays de la météorologie. Il améliore la technique et donne des avancées géochimiques. C'était le métier de Wegener. Ce n'était pas sa passion. Sa passion, elle s'appelle « Dérive des continents ». Cette passion s'est exprimée curieusement dans un article de 10 pages en 1912. Il donne sa théorie. Il la reprend sans cesse, où les pages de la note sont toujours enrichies d'année en année. Et ce sont de grands succès. 1912, disais-je, c'est l'article. 1924, une édition profondément remaniée. 1927, la dernière. Et il n'y en aura pas d'autre. D'abord, parce qu'il n'a pas voulu autoriser son frère de même métier que lui à continuer de l'enrichir, je dirais. Pourquoi dans un instant? Mais quel était, au moment, en 1912, le savoir sur la géologie générale de la planète? Quels étaient l'état des travaux? Tout d'abord, voyons, ce titre, le titre de tout son volume, s'appelle « La genèse des continents et des océans ». Il ne parle pas de dérive continentale. Il est frappé par la médiocre qualité des informations. Il n'est pas géologue et les continents l'attirent. Mais à cette époque, les trois quarts de la planète, j'ai nommé les océans, sont tout à fait inconnus. Il faut bien réaliser que en 1904 paraît la première carte mondiale du fond des océans. Et elle est l'œuvre, sur mandat d'une mission internationale du prince Albert de Monaco, opérant avec son personnel sur un navire qui est le sien, sa propriété personnelle. Voilà où en étaient les océans. Donc, différence énorme pour parler de la genèse. En effet, l'ensemble des continents et de la planète, donc des océans compris, s'exprime depuis 1884 avec trois enveloppes emboîtées les unes dans les autres. Un cœur, le nickel-fer, une première enveloppe, le manteau, silice-magnésium-cima, et une dernière enveloppe externe, le cial. Le cial affleure dans les continents et on admet que les océans sont faits de la partie intermédiaire, le cima. Et la figure qui présente l'hypothèse de Wegener, elle est très simple. D'aucuns ont dit simpliste. Elle dit la planète Terre est fait d'enveloppes concentriques, certes, mais la dernière, celle des continents, n'est pas une enveloppe continue, ce sont des radeaux qui flottent sur le cima et leur ensemble fait un tiers ou un quart de la surface de la planète. Et il dit, les océans ne sont pas faits comme les continents, ils n'ont que le cima qui affleure sous l'eau. Ensuite, il affirme, les continents sont mobiles sur le cima et ils se déplacent. Et étonnamment, la troisième partie de son hypothèse, c'est de dire on peut construire dès aujourd'hui des cartes qui représentent la planète et ces cartes varient dans le temps puisque les continents sont mobiles. Il y a trois époques dans la note créant la théorie. Sur l'une, la plus récente, vous y trouveriez une cartographie banale d'un dictionnaire très fréquent. Et puis, si on tend des temps un peu plus anciens, on voit dans l'hémisphère sud commencer un regroupement d'un certain nombre de continents, alors que l'on voit un océan Atlantique très réduit. Donc, une carte différente, mais elle très différente. À une période beaucoup plus tardive, celle où était le charbon de l'Europe et aussi de l'hémisphère sud. L'hémisphère sud fait alors partie d'un seul continent dont il retrouve la forme en associant, comme les gamins le font d'un puzzle, ce qu'il en est. Qu'il y a trois éléments, l'océan majoritaire, les continents qui sont bien développés et les mers peu profondes sur une surface continentale. Voilà la théorie de Wegener. Cette théorie entre en vigueur, l'espère-t-il, alors que depuis 1829, Élie Beaumont avait proposé un modèle qui régnait en maître dans toutes les formations géologues du monde. Cette théorie est simple. Elle part de l'idée que la Terre se refroidit. Elle se refroidit d'abord dans son cœur et se refroidissant, elle se craque sur elle-même. Il y a une contraction thermique selon sa terminologie. Et il y a alentour un ensemble de roches sans destinée, celles qui sont autour, si c'est le sial ou le sima, les monts n'étaient pas découverts, la différence non plus. Et le raccourcissement, la contraction thermique, aboutit à faire des immenses cavernes, dit-il, entre le cœur et la cour extrême. Et cette caverne s'isole, s'effondre parfois. Et la croûte supérieure s'effondre et ainsi naissent les océans. Voilà ce qui était la théorie de Beaumont. Un mot pour nous remettre en mémoire, c'est l'époque où Cuvier affirme que périodiquement, il y a des accidents, des catastrophes sur notre planète où toute la vie est détruite et une autre planète se forme par des océans dépassés ici et là. Et lui, Beaumont, dit, attention, il n'y a pas eu un effondrement majeur, mais des effondrements à des dates particulière, et Beaumont, qui était un excellent géologue, donne leur nom. Et c'est un effondrement alpin, un effondrement calédonien, etc. Voilà ce qu'il en était. Bien évidemment, les cartes de l'époque de notre planète montrent simplement des continents qui s'appellent continents africano-américains. C'est simplement l'Amérique du Sud, l'Atlantique Sud et l'Afrique. Et ceci est bordé par des chaînes de montagnes. Et voilà, en 1900, l'image que l'on a de la planète. On comprend qu'il y ait eu et des différends. Il n'y a rien de commun entre l'image qu'un homme seul, météorologiste de son état, propose. Et il cherche des preuves. Et là, il exprime très bien qu'il va étudier ces preuves par la méthode empirique, qui est une méthode bien connue des naturalistes. Elle consiste à partir d'une idée a priori d'aller voir si dans la nature il existe des objets qui permettent de comprendre. Et c'est ce qu'il fait. Il fait des études qui, à partir des résultats géologiques publiés, étant ainsi assuré que ce n'est pas son regard qui verra les effondrements, les variantes qu'il propose. Et il commence bien évidemment par rechercher une mobilité. Et là, il a beaucoup de difficultés. Des mobilités, il en trouve. Mais à partir, en 1912, à partir de levées astronomiques, dont il convient qu'ils sont mal situés pour les 20 ans qu'ils sont nécessaires pour voir des variations astronomiques, il obtient des déplacements de 39 mètres par an entre l'Europe et le Groenland. Cela lui paraît beaucoup, mais il continue et il trouve d'autres moyens jusqu'à ce que les câbles télégraphiques qui unissent l'Europe à l'Amérique soient posés, et à partir de ce moment-là, l'unité devient le centimètre par an. C'est une unité qui est de l'ordre de grandeur de ce qui existe aujourd'hui, bien matérialisé. Voilà son premier argument. C'est un argument qui ne doit rien à ce qu'il a fait lui-même, mais au relevé que d'autres spécialistes ont fait. Il obtient également des bons arguments avec les fossiles. Et les meilleurs, ce sont les arguments de l'hémisphère sud, où il trouve des animaux et des plantes identiques sur l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, la zone la plus méridionale, l'Australie, etc. Donc, ce qu'il avait construit avant d'avoir ces informations-là se retrouve correctement validé, et il dit que c'est une preuve. Un autre type de preuve, il l'appelle preuve géophysique. C'est Pratt et Airy qui l'avaient mis en valeur en 1855. On y voit un rectangle hachuré, c'est un morceau de ciel, c'est un continent. On y voit une bande horizontale, c'est l'eau, et un domaine en pointillé, c'est le sima, c'est-à-dire le manteau. Et on a ainsi un bloc qui est posé ou placé dans le sima. Il trouve, en association avec cela, des mesures faites en Scandinavie. Et les mesures faites en Scandinavie, qui sont très banales, mais capitales à cet moment, montrent que depuis la fonte des glaciers sur la Scandinavie, il y a une augmentation de l'altitude, une montée de la chaîne de montagnes scandinaves. Et cette chaîne de montagnes scandinaves est bien connue dans des temps historiques et s'observe encore de nos jours. Et la vitesse est aussi de l'ordre du centimètre par an. Ils cherchent d'autres preuves. Et ils trouvent dans les études de la composition des continents qui viennent des travaux des géologues, et en particulier d'un des plus grands d'entre eux, Émile Gargan, géologue tectonicien suisse, qui met en évidence des panneaux chevauchant du sud vers le nord, du nord vers le sud, dont l'ampleur du déplacement s'explique en milliers de kilomètres. Et ça, c'est Gargan, c'est sa manière de travailler, il s'inspire du travail d'autrui. Bien que celui-ci, Émile Gargan, fut très tôt un de ses fidèles et l'un des meilleurs défenseurs qu'il eut de la tectonique. Enfin, on retrouve le domaine de l'hémisphère sud. Et ce domaine de l'hémisphère sud, ce ne sont plus des animaux, c'est des données climatiques. À une autre époque, ce ne sont plus des temps très chauds, c'est des périodes de glaciers. Et on voit des traces glaciaires en Amérique du Sud, des taches noires en Afrique, en Inde, en Australie. Et c'est des glaces qui les ont produits. On en déduit où pourrait être le pôle sud. Et il dit, ceci est conforme à l'idée que je proposais, donc cette preuve colle. Mais inventer des continents qui se déplacent, c'est facile. Mais par quelle force ces continents sont-ils déplacés? Eh bien, il dit, et ça montre le style du livre en ce qui concerne les forces qu'il appelle translatrices. Cette théorie, écrit-il, n'a pas encore trouvé son Newton. C'est exactement ce qu'il en est, parce que lui-même avait eu l'idée qu'il y avait des forces qui pouvaient s'appliquer parce qu'elles venaient des découvertes et visaient des objets flottants qui se déplacent du nord vers le sud ou du sud vers le nord. Il se fait ramassé par les géophysiciens, nous verrons ça tout à l'heure. Mais où il a, et ça montre sa méthode de travail, et un courage moral considérable, d'autres diraient un culot, il dit, je n'ai aucune preuve que les continents puissent se déplacer vers l'ouest, comme ils le font dans ces schémas, je ne sais pas, je dis qu'ils doivent se déplacer. D'autres trouveront. Et il dit même, la viscosité du magma, c'est-à-dire la viscosité du sima, on en a eu besoin pour voir soulever la Scandinavie du sima qui l'entourait. Et là non plus, il dit, personne n'a d'argument pour la valeur de la viscosité. Et puis, intervient un bouleversement considérable dans tout ce genre de travail. Becquerel, Pierre et Marie Curie, en 96-97, Becquerel et Pierre et Marie Curie mettent en évidence la radioactivité. Alors, il faut quelques années pour que cela pénètre le milieu des sciences géologiques. Mais dès 1908, des livres paraissent. Et la chose très importante est que s'il y existe des minéraux dans les roches et que ces minéraux sont générateurs d'énergie, il n'est pas possible d'organiser la géologie de la planète sur le postulat que le cœur se refroidit. Donc, la contraction thermique comme base de formation des montagnes n'a pas de sens. Cela lui vaudra bien des difficultés. En outre, il émet dans sa dernière édition l'idée que s'il y a un cima et s'il est visqueux, une source d'énergie doit permettre des courants de convection. Il cite deux ou trois de ses confrères qui disent ceci, dont en particulier Holmes, qui est le professeur à Londres, et le schéma que fournit Holmes est simplement étonnant d'anticipation. En effet, une tache blanche sur les figures supérieures qui repose sur le noir c'est la surface du cima, le blanc superficiel c'est le continent. Et s'il y a dessous des courants qui sont ascensionnels dans le cima, ils traquent le continent qui est au-dessus et les courants s'aplatissant promènent les continents et les continents dérivent. On notera par anticipation que c'est bien ça le moteur. Mais il y a bien vite des difficultés. L'accueil de l'opinion à l'hypothèse de Wegener est très différencié. Les techniciens, c'est ceux qui étudient les reliefs, dont le plus brillant d'entre eux était Argan. Il a pris parti et dit « Je ne sais pas comprendre l'Himalaya ni les Alpes s'il n'y a pas autre chose que des refroidissements. » En effet, il montre que la plaque, la nappe de charriage supérieure, n'a pas la même composition que celle qui est en dessous. Et les techniciens deviennent des fanatiques. Mais ce sont, hormis certains, des fanatiques prudents. En effet, les géophysiciens, forts de physique et de mathématiques, sont, par la personne d'un des plus brillants d'entre eux, Géfraise, des ennemis totaux de cette affaire. Pourquoi ? Parce qu'ils récusent tout à fait la manière de travailler de Wegener. L'empirisme dont ils se réclament leur paraît inacceptable. Et il l'est, bien sûr. Mais il se limite à critiquer les forces. Or, je vous l'ai dit, ces forces sont ce qui le préoccupe le moins. Il sait que ce qu'il dit ne rend pas, n'explique pas ce qu'il montre. Mais le fait est que c'est au nom de ça que la théorie a du mal à s'installer. Et l'un des brillants français, Pierre Termier, qui a élucidé le premier la structure des Alpes, emploie lui-même dans ses interprétations à lui le mot de traîneau écraseur. C'était bien cela, un morceau d'un continent écrasait l'océan entre les deux et s'épandait sur l'autre rive. Mais il dit, j'ai fait un rêve. C'était splendide. Wegener avait raison. Mais le matin, je me suis réveillé. Il n'y avait que des songes, que des vents, et je suis retourné travailler. Donc les Français, contrairement aux Suisses, ont abandonné. Mais plus grave, ce qu'on peut voir, toute autre façon de procéder. Daly, un géologue américain, très grand spécialiste de pétrographie, a fait une mission avec White, qu'en est un autre, dans l'Afrique centrale. Et puis, ils ont rencontré un paléontologiste, Dutoit, qui avait vu ses travaux analysés par Wegener, et ils se sont mis à discuter. Et ce qu'a dit Daly, c'est ceci. Des méthodes pour expliquer les forces mobilisatrices, mais on va en trouver. Et en 10 jours, ils en ont trouvé 4. Mais, dit-il, il faut, ce qui est important, c'est que lorsque vous dites qu'il y a une identité entre la flore et la faune de l'Afrique et celle du Brésil, les descriptions que vous fournissez sont sans arrêt. Et il obtient une mission. Dutoit, le spécialiste professeur d'Afrique du Sud, va au Brésil. Il y passe 6 mois de terrain et 2 ans de mission. Et il revient et dit il n'y a aucune différence entre les faunes et flores d'un côté de l'Atlantique et de l'autre. Et je ne sais pas, dit-il, s'il en va de même ailleurs, mais ce sont les mêmes auteurs qui ont dit, et il conclut, il y a donc eu une séparation mécanique. Et Dalí conclut qu'il existe d'une dérive, mais il n'a pas plus qu'un autre, il ne s'est donné de raisonnement. Mais la théorie de la contraction est impossible. Les courants de convection, on n'en connaissait pas la mise en route physique. Donc, la guerre arrivant, il y a eu un délaissement pendant une dizaine d'années entre la mort de Wegener et la guerre. À la guerre, les choses ont changé. Elles ont changé parce que, d'inconnus, les océans sont venus très bien connus. On a fait des analyses par toute forme de moyens physiques. On a connu le fond des océans, on a connu les déformations des océans, on a mesuré les flux d'eau chaude qui sortaient. Bref, les continents ont donné la dérive et les océans étaient orphelins d'opinion. Et simultanément, en 1967 et 68, 3 papiers sont sortis. Et ces 3 papiers étaient signés l'un Morgan, l'autre Mackenzie et le troisième notre collègue Xavier Le Pichon. Et tous partent des océans. Et voilà le moteur de déplacement des continents. Et là, tout a changé. Et ces 3 articles qui sont véritablement le fondement de la science, pour prendre l'exemple de celui de Le Pichon, il s'appelait « Expansion océanique et dérive des continents ». Et on voit là le problème qui a existé, a été que d'un côté, la dérive a été travaillée soigneusement, mais on ne savait pas comment ça dérivait, et il a fallu ces 3 papiers séminaux pour qu'on leur change de monde. La tectonique des plaques était à la porte et elle est sur nos écrans de télévision au premier séisme, au premier tremblement de terre donc et au premier volcan. Ainsi, on voit très bien comment il est nécessaire d'examiner, même si cela ne correspond pas à notre croyance de base, il est utile de regarder sans avoir d'exigence a priori. C'est une preuve qui est donnée ici. Monsieur Wegener a rêvé, Monsieur Wegener a été un visionnaire, les 3 spécialistes que je dis ont, eux, été les véritables scientifiques qui ont fait l'une des découvertes les plus connues. On voit que parmi les découvertes qui sont les plus connues par les enquêtes publiques, la dérive des continents arrive 3e. Ce n'était pas un rêve, c'était simplement une opinion, une possibilité, heureusement, qu'elle a été sérieusement travaillée. C'était un grand pas pour l'humanité.
C'était Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, sur la dérive des continents de Wegener. Un discours qu'il a donné lors de la clôture de la rentrée solennelle de l'Académie le 23 novembre 2010. Retrouvez sur canalacademy.com la retransmission complète de cette rentrée dans l'émission Sous la coupole. Et retrouvez sur le site de l'Académie des sciences la liste des lauréats des grands prix de l'Académie des sciences qui ont reçu leur distinction lors de cette journée du 23 novembre 2010. Merci et à bientôt pour de prochaines retransmissions.